comme une invitation plus que comme un commandement. Mais le fait que nous la considérions également comme un commandement nous permet de dire, bon, c'est quelque chose que Dieu veut que je fasse. Et la prophétie rappelait cette vérité que Dieu demande en premier que nous nous approchions du trône de la grâce, ce que beaucoup de gens font en dernier, alors que Dieu lui attribue la première place. Pourquoi nous lui attribuerions la dernière place? Ça, c'est une question qui est un véritable débat. L'apôtre Paul parle souvent aux chrétiens et il leur dit ceci, par exemple, de ceux qui apprennent toujours et qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Vous le trouverez dans 2 Timothée au chapitre 3. Pour ceux qui prennent des notes, ils s'opposent à la vérité, ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Plusieurs fois, vous voyez dans la parole de Dieu des hommes qui sont catalogués comme étant des réprouvés, catalogués comme étant des gens qui n'ont aucune bénédiction. Ils s'opposent à la vérité. Ils apprennent toujours, c'est un truc de folie, ils apprennent toujours et ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ça fait partie des visites les plus épuisantes pour un pasteur, de voir continuellement enseigner la vérité et voir que ces personnes s'opposent toujours à la vérité. Jusqu'où il faut aller? Bon, ça c'est une autre question, mais c'est la vérité. Ailleurs, il est parlé de ceux qui reçoivent la grâce de Dieu en vain. C'est quelque chose de terrible. Vous vous rendez compte, heureusement que chacun a sa responsabilité devant Dieu. Imaginez que je m'adresse à une foule, à un auditoire, et que je sache dans mon cœur que personne ne va capter. Ce serait quelque chose de terrible. Imaginez un cuisinier qui prépare à manger pour 200 personnes, et 200 personnes ne viennent pas, ou 200 personnes ne mangent pas. Le Seigneur parle des gens qui reçoivent la parole de Dieu en vain. La parole, ailleurs, il est parlé de la parole de Dieu qui a été annoncée et qui n'a servi à rien. Vous vous rendez compte? La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux chapitre 4, verset 2. Il y a, hélas, on le voit plusieurs reprises dans la parole de Dieu, cette parole qui nous montre que des gens ne changent pas. Et c'est vrai que c'est facile à savoir si vous avez fait des progrès. Si vous avez fait des progrès, c'est la preuve que vous recevez la parole de Dieu d'une manière intelligente. Si vous dites, voilà, tiens, ça fait 6 mois, tiens, depuis le 1er décembre, le 1er janvier, tiens, depuis l'an dernier, je n'ai fait aucun progrès, je suis toujours dans mon sale caractère, je suis toujours dans mes mauvaises manies, je n'ai pas pris de victoire, c'est fort probable que vous ayez reçu la parole de Dieu en vain. La parole de Dieu, elle doit nous faire faire des progrès, vous l'avez entendu dans la prophétie, vous l'avez entendu dans la présentation de la Sainte Cène, c'est évident. Si vous êtes converti, parce que là, peut-être est la clé du problème, si vous êtes converti, vous savez que tout ce qui a été écrit dans la Bible l'a été écrit pour notre instruction. Cette semaine, ou il y a quelques jours, j'ai reçu un ouvrage d'un homme qui était venu à une réunion et qui a commencé une démarche avec Dieu et qui commence à m'expliquer que la Bible, il faut savoir trier, que l'apôtre Jean, certainement qu'il est inspiré, mais que l'apôtre Paul, c'est un idiot, etc. Je prends un terme qui peut passer. Mais je crois que quand quelqu'un est converti, il croit que tout ce qui a été écrit l'a écrit pour notre instruction. Que tout ce qui a été écrit est sérieux. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, si vous discutez cette affaire, c'est que vous n'êtes pas converti. Vous allez me dire, c'est facile de parler comme ça parce que tu es sur l'estrade, on ne peut pas discuter. Écoutez, quand quelqu'un est passé par une profonde conversion, il croit que toute la parole de Dieu est inspirée. Et que quand on commence à mettre sa pensée au-dessus de la parole de Dieu, je crois qu'on va être très très embarrassé le jour où on va passer devant le Seigneur. Donc, par exemple, ce texte, vous croyez qu'il est inspiré? Le psaume 73, je voulais qu'on lise le psaume 73, où nous avons affaire à un homme qui est un homme de Dieu, qui a été choisi par David, c'est le psaume d'Asaph, c'est un psaume très très profond. Est-ce que vous croyez que ce psaume, il a été mis dans la Bible parce qu'il en fallait, tiens, il fallait 150 psaumes, alors bon, eh bien, on met un psaume de plus, c'est le numéro 73, ou est-ce que vous croyez que ce psaume est utile? Où nous voyons un homme, puisque je vois que vous cherchez, on y va, un homme qui exprime sa victoire, au bout d'un moment, après certainement beaucoup de mois, parce que là, c'est résumé à un psaume. Mais dans ce psaume 73, nous voyons un homme qui termine en disant, quelque chose d'extraordinaire. Alors il faudrait que nous méditions ce psaume 73. Peut-être que toute cette semaine, vous pouvez dire, mais Seigneur, éclaire-moi afin que je comprenne ce que tu as voulu nous dire au travers du psaume 73. Et ce psaume termine avec cette parole, de cette bénédiction, pour moi, heureux si vous pouvez mettre votre prénom, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Cet homme était le responsable de la chorale de Jérusalem, choisi par David lui-même. Cet homme, après sa mort, est considéré comme un prophète. Asaph, plusieurs psaumes sont de lui. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'Asaph est un homme particulier qui a été choisi par Dieu parce qu'il a dû se faire remarquer d'une manière spéciale pour que David le choisisse. Donc c'était un homme qui était tous les jours, dans le temple. Vous le lirez. Et il louait Dieu et il servait Dieu. Et ce psaume nous prouve que ce n'est pas parce qu'on est tout le temps à l'église, que l'on va à toutes les réunions et que l'on lit la Bible, que l'on s'approche de Dieu. Voilà, je vous résume le psaume. C'est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. C'est pas un imbécile. C'est vraiment quelqu'un de spirituel qui s'est fait piéger par ce qu'il regardait autour de lui. Parce que vous savez, la vie, de temps en temps, on regarde, tiens, comment ça se fait que les méchants prospèrent? C'est moi qui devrais prospérer, puisque moi je suis spirituel, puisque Jésus a dit qu'il bénirait les spirituels. C'est donc moi qui devrais prospérer, c'est pas les méchants. Vous voyez, c'est vite fait. Il a commencé comme ça. Et ça lui a coûté très cher, mais il s'est ressaisi. Il aurait pu le payer beaucoup plus cher. Heureusement qu'il s'est ressaisi, qu'il a écouté certainement l'injonction de Dieu, l'action du Saint-Esprit pour le faire réfléchir. Vous savez, quand on entend des prophéties où il nous est demandé de nous approcher du trône de la grâce et que la prédication qui suit nous exhorte à nous approcher du trône de la grâce, c'est peut-être pour quelqu'un de quelque chose d'important. C'est peut-être pour toi, mon frère. C'est peut-être pour toi, ma sœur. Donc, ce psaume est là pour nous montrer comment on peut passer de l'échec à la bénédiction, parce qu'il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi la grâce de Dieu, la pédagogie du Seigneur, parce que est-ce que vous le croyez qu'on peut passer de l'échec à la bénédiction? Bien sûr, ces choses ont été écrites dans cette intention. Alors, comment qualifiez-vous votre communion avec Dieu? Si vous deviez répondre, ne me répondez pas, bien sûr, mais je vous pose la question pour que vous compreniez mieux la prédication. Comment qualifiez-vous votre communion avec Dieu? Comment parleriez-vous de votre communion avec Dieu? Est-ce que vous dites, moi je suis très 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 satisfait de ma communion avec Dieu? Ou est-ce que vous dites, oui j'ai fait des progrès, ça fait 10 ans que je marche avec Dieu, incontournablement j'ai fait des progrès. Voilà. Comment parlez-vous de votre communion avec Dieu? Vous en parlez, c'est bien ou ça va pas? Est-ce que ça va? C'est sérieux. L'invitation du Seigneur ce matin est là, approchons-nous du trône de la grâce. Si vous manquez de grâce, si vous manquez de miséricorde, si vous manquez de secours, cette prédication, elle est pour vous. Écoutez-la bien, elle va être courte, elle va être suivie d'un appel, mais je voudrais que vous soyez sérieux. Parce que, bien sûr que tout le monde peut dire, j'ai besoin de davantage de grâce, j'ai besoin de davantage de miséricorde. Bien sûr, c'est évident. Mais quand même, il y a le fait que l'on ait besoin de davantage nous approcher de Dieu, et le fait que l'on manque de ces choses. Hier soir, quand je priais, j'ai vraiment eu à cœur de faire une réunion d'évangélisation, le mardi soir qui va venir. Et vous savez, quand Dieu dit qu'il sait ce qui est bon, et qu'il veut que les hommes mènent une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté et piété. C'est bon devant Dieu. Donc Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et je voudrais expliquer, parce qu'hélas, il y a des chrétiens qui doivent réentendre ce qu'est la paix, ce qu'est une vie paisible, ce qu'est une vie tranquille. Et je voudrais expliquer ces 4 vertus, parce que Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous. Vous le croyez? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous nous privons de recevoir ce qui est bon. Et nous cherchons, comme la prophétie le disait, nous cherchons la joie dans le monde. Est-ce que vraiment c'est un aveuglement de chercher la joie dans le monde? Je suis persuadé que Dieu nous donne beaucoup de joie dans bien des choses. On regarde un bouquet de lilas, on le sent. Est-ce que c'est bon, un bouquet de lilas? Bon, vous avez déjà senti le lilas? Merci, madame Dalava. C'est une bénédiction. Chaque fleur est une bénédiction. Donc, Dieu nous donne certaines choses sur la terre pour que nous en jouissions. C'est évident. Mais la vraie joie ne se trouve que dans la communion avec le Seigneur. Et combien de chrétiens souffrent de cela? Alors, je voudrais que vous compreniez bien que, parce que c'est quelque chose pour moi qui est évident, mais pour beaucoup de chrétiens, ça ne l'est pas. Que nous comprenions que ce n'est pas la quantité de réunions, que ce n'est pas le fait de venir à l'église le dimanche matin qui fait qu'on s'approche de Dieu. Vous le comprenez, ce n'est pas parce qu'on prend le pain et le vin qu'on est en communion avec Dieu. Vous le comprenez. Certains, ils prennent le pain et le vin, donc c'est clair, ils sont en communion avec Dieu. Combien de gens, mais plusieurs parmi nous, nous le savons. Nous avons récité des prières, nous avons prié, nous avons récité des prières, et nous ne nous sommes jamais approchés de Dieu. Combien avons-nous entendu d'amis catholiques qui ont dit, j'en fais partie, qui ont dit, j'ai prié, je priais tous les jours, et je ne connaissais pas la grâce de Dieu, je ne connaissais pas le pardon de Dieu, etc. C'est la preuve que nous pouvons faire des choses sans obéir, sans faire ce qui est écrit dans cette invitation, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Alors bien sûr, Jérémie a salué les nouveaux tout à l'heure, s'il y a des nouveaux, cette invitation elle est pour vous, ça c'est sûr. Vous devez vous approcher du trône de la grâce. Vous ne devez pas devenir évangélique, tiens j'étais dans telle dénomination, je vais découvrir cette dénomination, c'est beaucoup plus sobre, il n'y a pas de statut, ça me convient ou ça ne me convient pas. S'approcher du trône de la grâce, ce n'est pas changer de religion. S'approcher du trône de la grâce, c'est vraiment découvrir ce qu'est la grâce de Dieu, ce qu'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous appelle. Dieu appelle tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oh, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Hélas, quand on voit ce qui est les prophéties, ça fait quand même mal au cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vu du temps de Noé, combien il y en a qui ont été sauvés? Moi, je trouve qu'ils n'étaient pas nombreux. Dieu appelle tous les hommes, tous. Ce matin, si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous ne connaissez pas ce qu'est la repentance, cette prédication, elle est pour vous, vous pouvez en être certain. Mais, si vous êtes passé par la repentance, par la conversion, cette prédication est également pour vous, afin que vous puissiez rebondir et dire, oui, je veux la grâce de Dieu dans ma vie, je veux la miséricorde de Dieu dans ma vie, et je veux que Dieu me secoure au moment opportun, comme c'est dit dans le texte, au moment où dans nos besoins. Nous devons nous approcher avec assurance. Nous n'avons pas un Dieu qui est contre nous, nous avons un Dieu qui veut nous bénir. Moi, ce verset, j'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai pensé que s'approcher de Dieu avec assurance ne pouvait se faire que si j'étais bien avec Dieu. Vous me suivez? C'est-à-dire que si je suis bien disposé, si j'ai fait des progrès, s'il y a 3 mois que je n'ai pas péché, je peux m'approcher de Dieu avec assurance. Vous voyez comment je l'interprétais? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce texte, c'est une invitation qui nous montre que même si ça ne va pas, même justement si ça ne va pas du tout, si j'ai des problèmes, je peux m'approcher avec assurance de Dieu parce que nous avons un Dieu qui est assis sur le trône de la grâce. Un jour, ça changera d'avis, ça changera de méthode parce que Dieu ne sera plus assis sur le trône de la grâce. Il nous est dit dans l'Apocalypse que Dieu sera assis sur le trône blanc. Peut-être que pour plusieurs, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais moi je vous dis que lorsque Jésus sera assis sur le trône blanc, ça sera pour juger les gens. Alors qu'aujourd'hui, il est assis sur le trône de la grâce, donc c'est une invitation que l'on peut accepter avec beaucoup de joie, beaucoup de sérieux, c'est évident, mais pouvez-vous ce matin dire « Tu m'invites Seigneur ». C'est une invitation, ce n'est pas un commandement. J'aurais pu présenter ce verset que sous l'aspect du commandement, que sous l'aspect de l'instruction, c'est un peu plus souple. Mais quelqu'un d'intelligent, que ce soit une invitation, que ce soit un commandement, que ce soit un reproche, c'est une bénédiction quand Dieu nous parle. Dieu sait ce qu'il a à dire à l'Église, ce que l'Esprit a à dire aux Églises. Et ce matin, il vous invite, vous qui ne connaissez pas la grâce de Dieu, vous qui ne connaissez pas la miséricorde de Dieu, vous qui ne serez même pas capable de donner la définition de ces 2 mots, ce n'est pas un jugement, mais c'est pour vous dire que vous avez besoin de vous approcher de lui. Mais les chrétiens, vous qui peut-être traversez des moments difficiles, parce que peut-être vous vous êtes donné trop pour Dieu. Moi, je bénis Dieu lorsque mon épouse a passé 6 mois dans la dépression. Je sais pourquoi. C'est pas parce que c'était une paresseuse. Exactement l'inverse. Elle s'est trop donnée. Et le résultat, c'est qu'elle a eu un problème psychique. Mais ça vaut la peine de s'approcher du trône de la grâce pour savoir exactement ce que Dieu veut que l'on fasse et pas courir comme des fous pour essayer de répondre à tous les besoins qui se présentent. Oui ou non? Il n'y a que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et le secours de Dieu qui peuvent nous amener à être ces chrétiens équilibrés. Approchons-nous avec assurance. Quand vous vous tenez dans votre lit, dans votre bureau, dans votre salon, là, quand vous vous asseyez chez vous avec votre Bible, approchez-vous avec assurance. Vous n'avez pas un Dieu qui est contre vous, vous avez un Dieu qui est avec vous. Il y a des gens, j'ai peur de m'approcher de Dieu. Alors c'est vrai que je comprends tout ça, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Mais n'ayez pas peur de vous approcher de Dieu. Ceux qui ne veulent pas faire la paix avec Dieu, oui, eux, ils ont des raisons d'avoir peur. Mais si vous aimez Jésus, si vous croyez dans sa bonté, approchez-vous de lui. Approchez-vous avec assurance. N'ayez pas peur, ne vivez pas dans le doute, ne vivez pas dans la méfiance, ne vivez pas dans la crainte. La Bible est catégorique, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ce seul verset nous prouve que Dieu veut nous bénir. Vous pouvez le calculer comme vous le voulez. On pourrait faire un débat avec les jeunes, dire on va prendre ce verset et vous allez mettre chacun ce que vous en pensez. C'est certain qu'après un moment de méditation, tout le monde dira oui, ce verset nous prouve que Dieu veut nous bénir. Et si beaucoup de chrétiens, alors les pécheurs, bon, c'est une autre affaire, mais si beaucoup de chrétiens ne s'approchent pas de Dieu, ou mettent, comme la prophétie le disait, la prière en dernier, le trône de la grâce en dernier, c'est qu'ils ont de sérieux doutes par rapport à cette invitation. Parce que quand vous savez que quelque chose est bon, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas besoin de vous encourager beaucoup pour le mettre en valeur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon. Le problème des chrétiens, nous en avons parlé dimanche dernier, c'est pas l'incrédulité, c'est le doute. Tout le temps en train de douter de ceci, de cela. Alors la communion est presque annulée. Lorsque je me mets à douter, je prie, mais est-ce que ma prière s'arrête au plafond? Est-ce que ma prière s'arrête contre le mur? Moi, on entend ça des fois. Bon, il y a bien un problème. Quand un chrétien, au bout de 10 ans de conversion, dit « je prie, mais je me demande si ma prière dépasse le plafond ». Vous croyez que Dieu entend tout? Moi, je le crois. Approchez-vous. Approchez-vous avec assurance. Approchez-vous, notre version dit avec franchise, c'est-à-dire avec honnêteté, tel que vous êtes. Voilà ce que vous faites. Approchez-vous tel que vous êtes. Est-ce que ça peut se faire, ça? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Que Dieu vous dise, approche-toi mon fils, approche-toi ma fille, tel que tu es. Viens comme tu es. Ce n'est pas une bénédiction? Et c'est ce que Dieu demande. Il ne faut pas s'approcher parce que les autres le font, comme tout à l'heure. C'est quelque chose de très sérieux. Moi, j'aime faire des appels parce que je sais qu'il faut en faire. Mais tout à l'heure, à l'appel, c'est une question de conviction. C'est « Ah, s'il y en a deux qui s'approchent, j'y vais. » Ne venez pas. Ne venez pas si, parce que c'est pas la foi, ça. C'est une question de profonde conviction. Seigneur, moi j'ai besoin de grâce, j'ai besoin de miséricorde. Vous savez, lorsque j'ai fait l'AVC, moi je bénis le Seigneur. Parce que vous savez, même si l'église compose 400 personnes, même si un tiers de mon temps est pris par les autres églises, je me suis fait piéger. Et les besoins, c'est une chose, mais il y a quelque chose de plus important que les besoins, c'est l'urgence de recevoir la pensée de Dieu pour la transmettre à l'Église. Et je me suis fait avoir. Et tout le monde peut se faire avoir. Asaph s'est fait avoir. Adam qui était, et Ève qui étaient parfaits. Est-ce qu'ils étaient parfaits, Adam et Ève? Ils ne se sont pas fait avoir. Vous voyez, quand on ne veille pas sur son âme, eh bien on se fait avoir. Donc il faut s'approcher. Il faut s'approcher avec foi, car comme on l'a vu dimanche dernier, que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais c'est que c'est impossible. Il n'y a qu'une porte pour entrer dans les choses de Dieu, c'est la porte de la foi. On peut passer par la fenêtre. Dans le royaume de Dieu, on peut rentrer par la fenêtre. Il y a des gens qui rentrent par la fenêtre de la communion fraternelle. Ah, moi, ce que j'aime, c'est la communion fraternelle. Ah, j'ai trouvé une famille. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que c'est bien la communion fraternelle? Mais on n'entre pas dans le royaume de Dieu que pour la communion fraternelle, que parce qu'on a des frères et que parce qu'on a des sœurs. C'est une immense grâce. Mais on entre par la porte de la repentance. Voilà. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un homme qui doute est un homme qui est agité. La Bible dit que c'est un homme qui ne recevra rien, c'est un homme irrésolu. Pourquoi? Eh bien parce que monsieur pense que ce que lui dit est plus important que ce que Dieu a écrit. Vous comprenez bien que Dieu ne peut pas être d'accord avec ce genre de propos, il est comme les flots de la mer. Il avance. Vous avez vu la mer? Vous savez, ça avance et ça recule. Est-ce qu'elle avance, la mer? Voilà. Oui, non, mais est-ce qu'elle avance? Non, elle n'avance pas, elle bouge, elle reste à une certaine distance. La mer n'avance pas. Et bien voilà les chrétiens, on a l'impression qu'ils avancent. Mais en vérité, ils restent toujours au même endroit. Voilà ce qui se passe quand on doute. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous douter quand on écoute des cantiques comme on a entendu tout à l'heure? Comment on peut douter quand on voit ce que Jésus a fait à Gethsémané ou à Golgotha? Comment pouvons-nous douter? C'est pour ça, soyons honnêtes. Vous avez vu cet homme un jour qui a dit à Jésus, je crois, alors, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, c'est bizarre comme prière. Je crois, et en même temps, viens au secours de mon incrédulité. Bon, c'était peut-être pas tout à fait cohérent. Et est-ce que Dieu l'a béni? Et Dieu l'a béni. C'est pour ça que quand on s'approche d'une manière honnête, et l'honnêteté, c'est dire, c'est venu, mais vraiment tel que je suis. Seigneur, tu vois, oh, comment je suis en ce moment avec les autres, comment je deviens peut-être méchant envers tel mes voisins. Comment, Seigneur, j'ai besoin de toi. Peut-être que je suis dur envers mes enfants. Est-ce que ça peut arriver qu'on passe des moments très difficiles? Eh bien, venons tel que nous sommes aux pieds du Seigneur. Il faut régler ce problème du doute. Il faut régler ce problème d'honnêteté. Je crois que beaucoup de chrétiens ne s'approchent pas bien de Dieu parce qu'ils n'ont pas réglé ce problème de simplicité de cœur. Voilà, je viens tel que je suis. Seigneur, voilà, eh bien, je suis un pauvre type. Voilà. Mais je viens devant toi. Oui, je prêche ta parole. Oui, je fais ceci. Oui, je fais cela. Mais je suis un pauvre type. J'ai besoin que tu me touches. Et voilà, Dieu aime l'honnêteté. Si on commence à faire du cinéma... D'ailleurs, vous aimez que les gens fassent du cinéma avec vous? Est-ce que vous aimez? Ça n'arrive pas que les gens soient hypocrites? Oh, je t'ai menti, j'ai fait semblant de... Mais avec Dieu, est-ce que c'est bon ça? Avec Dieu, on ne peut pas lui mentir en plus. On peut mentir à un homme, mais est-ce qu'on peut mentir à Dieu? C'est complètement ridicule. Jésus un jour a dit à Pierre, pourquoi tu doutais? Pourtant, vous savez ce qu'est devenu Pierre? Bon, c'est vrai que c'était une expérience quand même assez particulière, mais il a quand même dit, pourquoi as-tu douté? Le doute, il nous fait toujours du mal. Nous avons l'impression qu'il n'y a que l'incrédulité qui fait que les gens ne se veulent pas se convertir, ne veulent pas de Dieu, les incrédules, malheur à eux, et c'est vrai. Mais le doute, il fait beaucoup de mal aux chrétiens. Car comme je l'ai dit l'autre jour, du doute à la défaite et de la défaite au découragement, je vais vous dire, vous mettez dans l'ordre ou le désordre, c'est à peu près pareil, ça va ensemble. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oui, nous devons nous approcher pour obtenir, pas pour dire « je prie, ça ne sert à rien ». Il y a un problème. Je veux bien croire qu'à des moments, Dieu peut nous éprouver. Est-ce que Dieu nous éprouve parfois? Oui, c'est vrai, mais d'une certaine manière. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que nous obtenions ce texte? Il faut bien lire les textes. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir. Je voudrais que vous en soyez, mais pétri, convaincu. Dieu veut que vous obteniez. Dieu veut que vous obteniez la miséricorde. Voilà ce dont on a besoin, d'obtenir miséricorde. Voilà la première chose pour laquelle il faut s'approcher de Dieu. Obtenir miséricorde. C'est bien d'obtenir miséricorde. Il y a des gens qui se sont approchés de Dieu pour rien. Il y a des gens qui viennent dans nos églises, à des réunions, une fois, régulièrement, un mariage, un enterrement, un service de baptême, etc. Ils viennent, ils s'approchent pour rien. Ils s'approchent, ils obtiennent rien. Ils sont là, ils regardent, ils jugent, peut-être ils soupçonnent six. Voilà. Ils sont braqués, bornés, meurtris, blessés, je ne sais pas. Mais ils obtiennent rien. Il n'y a rien de plus triste que de s'approcher de Dieu et de ne rien obtenir. Et c'est vrai que Jésus est catégorique, il dit, mais quand vous venez, ne priez pas comme les païens. Ne priez pas comme les hypocrites, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors c'est clair, je récite, mais tout ça c'est de la superstition. C'est la preuve que les gens se confient dans leurs efforts et ils n'ont pas appris à se confier en Dieu. Je dois obtenir miséricorde. La première chose que Dieu veut que j'obtienne, c'est la miséricorde. Il y a un exemple qui est très clair dans la Bible, c'est lorsqu'ils ont descendu par le toit, ce fameux paralytique, au pied de Jésus. La première chose qu'a fait Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à cet homme? Est-ce que vous vous rappelez? Tes péchés sont pardonnés. Il était paralysé et la première chose que Dieu veut faire dans la vie de cet homme, c'est qu'il expérimente le pardon de ses péchés. C'est ça la miséricorde. Nous avons d'abord besoin de sa miséricorde. Combien de gens, on va le voir, ont obtenu grâce et n'ont jamais été sauvés? Il y a 10 lépreux un jour qui se sont approchés de Jésus pour être guéris, et ils sont tous repartis. Il y en a combien qui sont revenus? Un. Mais je vais vous dire, cette proportion, c'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Il y a une personne sur 10 qui a obtenu grâce, qui après a obtenu miséricorde. C'est pour ça que la première chose qu'il faut d'abord obtenir, c'est la miséricorde. Peut-être que vous venez parce que vous êtes malade. Peut-être quelqu'un vous a dit, mais viens à l'imposition de main. Tu vas être guéri de ton mal. Oui, mais Dieu veut que d'abord vous obteniez miséricorde. Car à quoi cela servirait que vous soyez guéri du cancer, que vous soyez guéri de telle maladie, si vous allez en enfer? C'est pour ça que la première chose que Dieu veut que vous obteniez, c'est ça, miséricorde. La première chose que vous devez entendre par le Saint-Esprit, c'est « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Heureux êtes-vous. Ah, mais vous êtes heureux si vous pouvez dire « Mes péchés sont pardonnés ». Ah oui, vous pouvez dire que vous êtes heureux. S'il y a quelqu'un ce matin qui peut dire « Ah, mes péchés sont pardonnés ». Ah, mais croyez-moi, vous êtes les plus heureux de la terre. Je le pense vraiment. Il faut s'approcher pour la miséricorde. Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, j'ai besoin du pardon de mes péchés. Quand on voit aujourd'hui quelque chose qui me fatigue de plus en plus, les gens qui cantonnent sur leur position, moi je suis de telle dénomination, moi je suis pentecôtiste, moi ça me fatigue. Parce que ça ne veut plus rien dire. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des pentecôtistes qui ont besoin d'être évangélisés autant que des catholiques. Je vous choque peut-être, mais je vous assure que c'est vrai. Ça me fait mal au cœur. Le problème, ce n'est pas de savoir si vous êtes catholique ou si vous êtes évangélique ou protestant ou baptiste ou luthérien. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, est-ce que vous avez obtenu miséricorde? Voilà, c'est la question qu'on devrait se poser d'ailleurs dans les rassemblements interdénominationnels. On ne devrait pas dire de quelle religion tu es. On devrait dire est-ce que tu as trouvé la grâce de Dieu? Ça ferait peut-être avancer les choses. Bon, on verra ça. Obtenir miséricorde. Est-ce que vous avez obtenu miséricorde? Est-ce que vous avez obtenu le pardon de vos péchés? Parce que la miséricorde, c'est de la pure bonté. Vous savez, toutes les fois où il est dit que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Ça ne vous fait pas du bien de lire ça? Ah ben moi, quand je lis ça, moi je trouve que c'est bien. Quand il est dit, ne nous traite pas selon nos iniquités, ne nous punit pas selon nos péchés. Ça ne vous fait pas du bien? C'est ça la miséricorde. Mais pour cela, il faut s'approcher de Dieu. Et il ne nous traite pas selon nos péchés parce que nous acceptons le sang précieux de Jésus. Tout le monde ne peut pas dire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout l'univers ne peut pas dire, ah bon, Dieu est mon Père. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est le Père que de ses enfants, je l'ai déjà expliqué. Obtenir miséricorde, mais ça ne suffit pas. Il faut obtenir grâce. La grâce, c'est que je m'installe dans cette miséricorde. Là, pour beaucoup de chrétiens, mais c'est triste à dire, pour beaucoup de chrétiens, la vie spirituelle, je bloque le dimanche matin, je le bloque pour l'Église. Comme si on faisait un cadeau à Dieu, de donner 3 heures au Seigneur, mais le reste de la semaine, je fais ce qui me plaît, je vais où je veux, je regarde ce que je veux, je fais comme ça me plaît. C'est pour la liberté, et en plus certains ont le culot de prendre des versets bibliques pour justifier leur désobéissance. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Laissez-moi vous dire que ces personnes-là n'ont pas obtenu la grâce. Elles ont peut-être obtenu une faveur de Dieu, mais quand on obtient la miséricorde et quand on obtient la grâce, on s'installe dans cette grâce. Hélas, combien d'églises y aurait-il à Toulouse? Combien d'églises y aurait-il à Toulouse si tous ceux qui ont obtenu miséricorde avaient décidé de s'installer dans la grâce de Dieu? Il y aurait au moins 20-30 églises à Toulouse. Je suis convaincu. Vous ne le croyez pas? Pourquoi? Eh bien parce que les gens n'ont pas pris au sérieux cette invitation. C'est bien la preuve que les gens ne sont pas sérieux. Vous savez, quand Jésus dit, ils croient, ils reçoivent avec joie. C'est clair, quand vous êtes guéri, il y a de quoi avoir de la joie. Quand vous êtes au chômage depuis 3 ans et que par la grâce de Dieu, vous trouvez un boulot qui vous correspond, il y a de quoi recevoir avec joie la parole de Dieu. Ils reçoivent avec joie, mais dès que survient une tribulation à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas obtenu cette grâce. Ils ont obtenu une faveur, ils ont obtenu une guérison, ils ont obtenu une bénédiction. Et moi, c'est ce qui m'a le plus choqué les premiers mois de ma conversion, quand je voyais des gens qui faisaient des expériences plus belles les unes que les autres et qui étaient des rétrogrades totales. Mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande, c'est ceci, si vous êtes vraiment mes disciples, si vous gardez ma parole. Donc, un chrétien qui véritablement cède à cette invitation, cède à ce commandement, va connaître la miséricorde. Si vous vous approchez de Dieu, vous obtiendrez la miséricorde. Et je peux vous dire que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est une bénédiction tous les jours, ou le plus régulièrement possible, d'obtenir miséricorde. N'importe où, n'importe quand, Dieu peut vous accorder sa miséricorde. N'importe où, n'importe quand, Dieu peut vous accorder sa grâce. Pourquoi tant de chrétiens ne sont pas dans le repos? Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas sérieux, ou parce qu'ils veulent tellement bien faire, comme Azaph, comme ma femme il y a 4 ans, on veut tellement bien faire, moi je sais ce que c'est d'être découragé, on veut faire plaisir à tout le monde, on veut faire tout un tas de choses, et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Je crois qu'une des plus grandes bénédictions après le salut, c'est d'être sûr que l'on fasse ce que le Seigneur nous demande. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce n'est pas de courir après tous les besoins. C'est vrai qu'il y a un verset qui dit « Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Bon, demain, je vais parcourir les avenues de Toulouse et je vais donner 1 euro donc à tous les clochards. Oui? Isabelle, tu es d'accord? Est-ce qu'on peut le faire? Sérieusement, est-ce qu'on peut le faire? Mais non, ce n'est pas possible, soyons sérieux. Faites-le toute la semaine. Et vous venez me voir. Est-ce qu'on peut le faire? Déjà, matériellement, ça serait une affaire. Physiquement, est-ce que c'est possible de courir toutes les avenues? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est flagrant. Par contre, je suis persuadé que dans ce moment de communion avec Dieu, Dieu peut nous amener à donner 5 minutes, un SDF, pour parler quelques instants avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Lui offrir un sandwich. Est-ce que ça, c'est possible? C'est pour ça qu'il faut être au bénéfice de cette miséricorde et de cette grâce pour savoir ce que Dieu nous demande. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Oh, moi je fais ça, mais j'en ai marre. » Eh bien oui, c'est parce que peut-être vous l'avez fait parce que c'est pas Dieu qui vous l'a demandé. Si c'est Dieu qui vous le demande, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu va vous renouveler, que Dieu va vous fortifier, que Dieu va vous bénir? Mais si vous faites plein de choses que Dieu ne vous demande pas, il ne faut pas s'étonner que vous ne découvriez pas cette faveur divine. Et si Dieu, dans sa bonté, nous invite, parce que c'est quand même une invitation, c'est une bénédiction, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir, mais mes frères et sœurs, que deviendrait l'Église, l'Assemblée, les Églises, le corps de Christ, si nous mettions en pratique ce commandement et que nous commencions à dire, eh bien moi je vais m'approcher du trône de la grâce. Je ne vais pas prier pour prier parce que si, comme un jour quelqu'un me disait, mais je prie parce que je lis la Bible, parce que j'ai peur que vous me demandiez si je la lis tous les jours. Sans commentaire. Moi, c'est sûr qu'on peut demander à quelqu'un, est-ce que vous vous occupez de votre âme? Est-ce qu'un pasteur a le droit de dire ça? Bien sûr, mais après tout, si le gars dit non, je n'ai pas lu ma Bible, on est quand même dans une église. Hein? D'accord, on n'est pas dans un camp de forcenés. C'est sûr qu'un chrétien qui prie est un chrétien qui vit quelque chose. Un chrétien qui prie est un chrétien qui sera épargné. Parce que Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la surface de toute la terre. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne veille pas, peut avoir ce manque d'assurance. Mais un chrétien qui tous les jours... Je me souviens de cette sœur qui me disait, « Monsieur Gou, est-ce que vous croyez que je serai prête quand Jésus reviendra ?» Je dis, « Est-ce que vous veillez, est-ce que vous priez tous les jours ?»« Ah oui !» Eh bien, vous aurez de la force. Puisque Jésus a dit, « Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. » Dans la force d'un chrétien, c'est une prière vraie. Il s'approche de Dieu. Vous vous rendez compte? Il s'approche du Seigneur. Bien sûr qu'il ne voit pas, qu'il ne ressent pas, mais il le fait par la foi. Et quand vous lisez votre Bible, vous vous approchez de Dieu. Quand vous fermez vos yeux, certainement, et que vous priez, vous vous approchez de Dieu. N'en doutez pas. Approchons-nous du trône de la grâce pour la miséricorde, pour la grâce et pour être secouru. Vous n'avez pas besoin d'être secouru? Il n'y a pas besoin de secours? Franchement, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Oui, j'ai besoin d'être secouru au bon moment » parce que Dieu a un temps pour secourir ses enfants. Vous avez vu comment c'est écrit? Est-ce que vous avez votre Bible ouverte à ce verset? Pour être secouru dans nos besoins. Qu'est-ce que vous avez dans votre version? Au moment opportun. C'est encore mieux. Au moment opportun. Qu'est-ce que vous avez encore dans votre version? Voyez, au moment opportun, ça veut exactement dire cela. C'est-à-dire que Dieu sait quand il doit nous secourir. Bien sûr que nous, on aimerait que ça cadre de suite, avec le moment présent. Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous secoure de suite? Je parlais tout à l'heure des célibataires. Moi, je vous encourage, les célibataires, qui souffraient du célibat, à vous approcher du trône de la grâce. Et pas à dire, oui, je prierai quand Dieu m'aura béni, je prierai avec mon fiancé. Si vous ne priez pas maintenant, vous ne prierez pas avec votre fiancé. Vous allez me dire, mais tu vas trop vite. Écoutez, faites-moi confiance. Quand on ne fait pas les choses aujourd'hui, on ne les fait pas demain. C'est comme ça. Noé marchait dans son temps. Voilà. Il y a des gens qui disent, oh, moi, si j'étais dans telle autre ville, ça irait mieux. Oh, si j'avais vécu à une autre époque, je marcherais avec Dieu. Oh, si j'avais épousé une chrétienne. C'est pas moi qui parle, hein, mais c'est un témoignage que j'ai entendu. Si j'avais épousé une chrétienne, je marcherais avec Dieu. Écoutez, où que vous soyez, si vous marchez avec Dieu maintenant, vous marcherez avec Dieu. Si vous commencez à calculer comme ça, ça ne marchera pas. Je vous le dis. C'est une autre prédication, mais je vous assure que c'est la vérité. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru. Qui souhaite voir Dieu vous secourir? Vous savez, j'ai fait une petite expérience lundi. C'était lundi, j'avais plein d'arbustes à couper dans le jardin, tout ça. On m'avait prêté une petite tronçonneuse. Et je me disais, oh, il te faudrait une petite remorque pour ne pas trop débiter, etc. Puis tout d'un coup, je vois un gars arriver avec une remorque, il s'arrête devant la maison. C'était le papa d'un enfant que ma femme garde. Ah, il dit, monsieur Gou, si vous en avez besoin, je vous la prête. Et il m'a pris mes branches, il les a amenées à la déchetterie. Vous allez me dire, bon, c'est un détail. Mais quand même, ça correspondait pile poil au moment. C'était pas un secours. Mais quand même, je crois que Dieu peut nous étonner. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous étonner? Est-ce que vous le croyez que Dieu entendait quand j'étais appuyé sur ma petite bêche? Est-ce que vous croyez que Dieu entend mes prières? Ben oui. Quand il a dit chantez, hier je lisais, mais chantez dans vos cœurs. Mais ça veut dire que Dieu entend. Vous le croyez que Dieu entend ce qui se passe dans votre cœur? Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui veut nous bénir. Nous avons un Dieu qui ce matin nous invite par prophétie, par la parole, et qui nous dit approche-toi du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. Que son nom soit béni. Afin d'obtenir grâce, que son nom soit béni. Afin d'être secouru au moment opportun. Dieu secourt. Dieu peut vous secourir. Est-ce que Dieu peut vous secourir dans votre travail? Dans vos relations? Il y a des problèmes des fois au niveau relations. Je ne comprends pas, j'ai des problèmes avec mon patron, j'ai des problèmes avec les collègues. Mais ça peut arriver. Il y a un combat spirituel. Seigneur, secours-moi. Secours-moi dans mes relations humaines. Secours-moi dans la santé. Alors c'est vrai que Joseph, j'ai souvent prêché sur Joseph. Au psaume 105, il est dit que Joseph a été secouru au temps convenable. 13 ans après. 13 ans après. Est-ce que Dieu a secouru Joseph? Comment Dieu a-t-il secouru Joseph pendant ces 13 années d'épreuve? Parce que, voilà, c'est une question qui se pose. Eh bien, en étant avec lui dans la prison. Est-ce que vous croyez que Dieu peut être avec vous dans l'épreuve? Comment Dieu a secouru Daniel? Pas Daniel, les trois amis de Daniel, dans la fournaise. Comme ils étaient dans la fournaise en train de... Quatre. Qui était le quatrième? C'était le Seigneur Jésus. Dieu sait nous secourir. Il va être avec nous dans la prison, dans le désert, dans une affaire. Croyez que Dieu va vous secourir. Mais vous croyez que Dieu il va vous abandonner. Vous croyez que Dieu il se moque de vous. Vous croyez que Dieu il vous oublie. Dieu n'oublie personne. Vous entendez? Quand il est mort sur le bois de la croix, quand il s'est laissé crucifier, il a dit tout est accompli. Et il a tout accompli pour que vous soyez au bénéfice de sa bénédiction. Alors, approchez-vous. Ne dites pas, oh, mais moi, j'ai pas le temps. Mais moi, ça passera en dernier. Parce que c'est comme ça. Parce que je travaille comme ingénieur ou je travaille comme toubib, etc., etc. J'ai pas le temps. Eh bien, vous transgressez un commandement. Qu'est-ce que ça nous coûte de mettre en premier cette invitation, ce commandement? Vous préférez invitation ou commandement? Qu'est-ce que vous préférez? Invitation, hein? Ben, si on était attentif au commandement, laissez-moi vous dire que ça changerait dans le royaume de Dieu. Alors, on va fermer les yeux quelques instants. J'aimerais que si quelqu'un est interpellé, il puisse se dire, mais c'est pour moi, j'en ai besoin. Il faut que je sois sérieux. Il faut que je sois sérieux. J'aimerais qu'on chante ce vieux cantique, peut-être que la première strophe, peut-être qu'une fois, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin de cette bénédiction, avancez-vous. Faites-le simplement. Je m'approche de toi, dit ce vieux cantique.